Histoire et mémoire, une émission de Radio Grand Ciel. Et aujourd'hui, je reçois Marie-Thérèse de Cartier qui va nous parler de Madame de Coinon, qui est une figure drouaise. Et on va découvrir qui était cette personne. Son souvenir est maintenu par le nom d'un lycée professionnel privé, le lycée professionnel de Coinon, qui n'a en fait rien à voir avec cette dame, sauf qu'elle a œuvré beaucoup à Dreux pour cet enseignement technique, mais à une autre époque. Alors, qui était Madame de Coinon ?
Madame de Coinon est née Lucie Millard, fille d'un procureur à la Révolution, procureur voulant dire en fait avoué. Elle est née en 1797 au 26 de la rue d'Orléans, dans une maison qui appartenait encore au Le Ménestrel vers les années 1970 et peut-être encore après. Donc, où a-t-elle vécu enfant ? Je ne sais pas, parce qu'il semble que son père ait exercé à Mantes. En tout cas, elle a reçu une éducation très poussée, très cultivée, et elle n'avait pas de frères et de sœurs, semble-t-il. Elle épouse M. de Coinon, qui était breton et qui était officier demi-solde, sans doute aussi. Et c'est elle qui a une fortune considérable. Des fermes dans la région de Dreux, mais dans Dreux même, sa propriété s'étend de la rue Saint-Martin à la rue Saint-Denis et de la place du musée actuel au-delà de la ligne de chemin de fer qui va être créée plus tard. Le grand regret de ce couple est de ne pas avoir d'enfants et ils vont donc œuvrer pour l'enseignement, si on peut dire.
Et pour les enfants, donc,
pour
aussi.
Les enfants, en créant l'école Saint-Pierre-Saint-Paul, en créant Louvoir et aussi en créant les religieuses infirmières de la rue des Mousseaux.
Oui, ils les ont installées sur leur terrain, en fait.
Pas tout à fait. Mais donc je vais détailler l'histoire de cet institut Saint-Pierre-Saint-Paul en premier lieu. Vers 1846, ils sont en voyage vers Lyon et vers l'Italie et ils sont reçus en audience privée par le pape parce qu'ils avaient déjà prévu avec l'évêque de Chartres la création d'une école primaire pour des garçons pauvres. On appelait ça un externat. Donc, à leur retour en 1848, ils ouvrent effectivement cet externat pour garçons pauvres. C'était rue Saint-Martin, peut-être au niveau de l'actuelle pharmacie. Je n'ai pas pu savoir, les numéros des rues ont tellement changé qu'on ne sait pas très bien où se situent je n'ai pas pu vérifier. À Dreux, il y avait évidemment une école primaire municipale pour les garçons, qui a été dirigée en particulier par un certain monsieur Corne. Et cette école primaire municipale, de type école mutuelle, était rue des Mousseaux et rue Mérigot, à côté du market pub actuel. Mais ils avaient prévu de créer une école plus importante et de léguer leur propriété de la rue Saint-Martin aux frères des écoles chrétiennes.
D'où l'origine du pensionnat Saint-Pierre.
Oui.
C'est de cela que vous allez nous parler.
Voilà. Mais ce qui s'était passé, c'était que monsieur et madame de Coinon étaient d'accord pour léguer leur propriété de l'école de la rue Saint-Martin. Mais monsieur de Coinon va mourir assez prématurément en 1855. Donc madame de Coinon immédiatement décide de donner sa propriété aux frères des écoles chrétiennes. Ses frères s'occupaient de l'externat, dans une petite maison, à peu près au niveau de la pharmacie actuelle. Mais elle va maintenant donner sa propriété, la maison dite du gouverneur, qui se trouve rue Saint-Martin. Et elle le donne tout de suite. Aussi, les frères des écoles chrétiennes envoient sept frères supplémentaires pour ouvrir cet internat. Cette fois-ci, c'est un pensionnat. Le pensionnat accueille des élèves externes aussi, mais aussi des élèves internes. Il y aura beaucoup d'internes qui viendront de la région parisienne, pas seulement de la région drouaise ou de l'Eure-et-Loire, mais aussi de la région parisienne.
Oui, puisque là, on a créé une vraie école.
C'est une vraie école.
Avec, les cours, des frères nombreux, puisque 7, c'est quand même important.
Parce que
des jeunes.
Oui, parce que cette école va être une école simultanée. C'est-à-dire qu'on pratique, les élèves sont séparés, comme de nos jours, en niveau, de la 11e à la 9e, de la 9e à la 6e, etc. Et donc, ça s'appelle l'enseignement simultané, et non pas un enseignement mutuel, qui était pratiqué à l'école publique de Dreux. Et donc, la maison du gouverneur n'est pas suffisante pour accueillir tous les élèves qui vont arriver, parce qu'il va y en avoir facilement 130 dès les premières années. Et donc, les frères décident de construire un bâtiment supplémentaire. C'est le bâtiment que nous connaissons de l'école
de
la rue Saint-Martin, le grand bâtiment. Et je crois que ce bâtiment a été construit en 4 mois. C'est un record de construction, je suppose. Et ces frères sont dirigés. Font un enseignement sans latin. C'est un enseignement qui a été initié par les ministres de l'instruction publique de France. Et c'est un enseignement très novateur, puisqu'il est sans latin, il donne une préférence aux langues vivantes, il s'occupe de plus de mathématiques et de sciences, de dessin, de cours de commerce, de législation. Ce n'est pas vraiment de l'enseignement technique, mais ça se disait enseignement technique. En fait, c'était un enseignement général, mais avec une partie commercial et un peu industriel. Donc ça plaît beaucoup aux fils de commerçants et aux fils de petits industriels de la région d'Eure-et-Loire et de Paris. Et même un des directeurs va être formé dans une école normale de Cluny qui a été pendant une dizaine d'années
un lieu d'enseignement technique, d'ailleurs.
Un lieu, cette école normale préparait pour les professeurs et les directeurs d'établissements de ce genre. Ça a duré très peu de temps, mais ça existait.
Donc, en fait, le pensionnat Saint-Pierre, ce qu'on appelait le pensionnat Saint-Pierre, qui était rue Saint-Martin, est une œuvre de Madame de Coinon.
Tout à fait. Et donc les élèves, il y avait une piscine, enfin un bassin de natation, et ils avaient beaucoup d'espace pour se dégourdir les jambes et pour se reposer, puisqu'ils allaient jusque vers la rue Saint-Denis. Mais il y a la construction de la voie ferrée et la construction de la gare de Dreux. Donc les terrains vont être expropriés pour créer le boulevard de la gare. Et à ce moment-là, les élèves doivent passent par un petit tunnel qui existe toujours, je crois, entre la rue, entre les bâtiments qui sont à droite quand on monte le boulevard et la gauche. Mais la surveillance est insuffisante. Les éducateurs ne peuvent pas aller voir ce que font les jeunes garçons de l'autre côté du boulevard. Et donc, les frères des écoles chrétiennes qui sont propriétaires à part entière des terrains vont vendre le terrain à une certaine veuve Baudot. Et cette veuve...
Que j'allais dire, ça va devenir le...
Plutôt à des époux Baudot. En 1863...
Ça deviendra aussi l'hôpital de Dreux.
Ça va être les époux Baudot. Mais en 1905, à peu près 1906, Madame veuve Baudot va mourir et elle lègue le terrain qu'elle avait acquis des frères des écoles chrétiennes en troisième position à la ville de Dreux pour créer un hospice de vieillards. Donc, c'est
la fondation la base. L'origine de l'hôpital.
Voilà. Donc, on ne va pas se...
Parce qu'en fait, tout ça, ça veut dire que ça vient de Madame de Coignon.
C'est Madame de Coignon. Alors, bien sûr, Madame de Coignon a dû quitter sa propriété, la maison du gouverneur, ce qu'on appelle la maison du gouverneur, une maison de style Louis XIII, et qui a été construite, peut-être, on ne sait pas trop, aux alentours de 1610, et elle va habiter dans la rue la rue des Moussons actuelle, et sa maison était au coin de la rue. Et cette maison a été occupée après par un dentiste. Il y avait encore un dentiste vers les années 1970, et maintenant c'est la maison du coin de la rue, une maison blanche avec un portail de fer forgé, je crois.
Alors elle-même, donc elle vient dans cette maison, mais aussi elle s'est occupée d'autres lieux à Dreux.
Alors, elle va créer un petit groupe de dames de charité. Il y avait déjà des dames qui allaient visiter les malades. Elle les organise peut-être plus rigoureusement. Et ces dames de la bourgeoisie ou des femmes de commerçants rendent visite aux malades. Mais ce n'est pas apporter quelques vêtements, quelques vivres, mais ce n'est pas très efficace. Aussi, en 1856, elle fait appel à des sœurs qui sont dites sœurs du Bon Secours, qu'elle installe aussi rue des Mousseaux, dans deux maisons qu'elle achète à un certain monsieur Beaufour, charpentier. Alors, ce monsieur Beaufour est-il l'ancêtre?
C'est amusant parce que là, on retrouve tous les ancêtres de ceux qui ont tenu un peu les rênes de la ville de Dreux, disons, dans la première moitié du XXe siècle.
Tout à fait. Alors, ces religieuses de Bon Secours, en fait, avaient été créées à Honneau vers 1729. Elles étaient dites de la Providence de Saint-Rémy d'Honneau. Elles végétaient jusque vers 1832, où elles ont montré leur dévouement et leurs compétences à Chartres lors d'une grande épidémie de choléra. Et donc, elles sont réputées excellentes infirmières ou aides-soignantes infirmières. Et donc, Madame de Coignon, avec l'accord, bien sûr, de l'évêque, les fait venir à Dreux. Et elles vont donc fonctionner.
Il n'y a pas très longtemps.
Il n'y a pas très longtemps. Sœur Jacqueline, bien connue à Dreux, et de cette congrégation-là.
Seule survivante des dames qui étaient là.
Oui. Y a-t-il encore des religieuses de Bon Secours, enfin, dites de Bon Secours
de Pas à Dreux, en tout cas.
Pas à Dreux, ça, c'est sûr.
Alors, donc là, on est aux Sœurs de Bon Secours, mais et alors, du côté de l'ouvroir, c'est-à-dire du côté des filles, on va faire peut-être une pause musicale, et puis après, nous allons reprendre. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel, dans l'émission Histoire et Mémoire, et nous évoquons Madame de Coignon, dont l'œuvre a été très très importante à Dreux, et en tout cas pour marquer le paysage drouais. Donc, on va parler maintenant de l'ouvroir, qui ultérieurement a été école de musique, a été des lieux où se réunissait le DARPA. Donc, on remonte dans le temps. C'était quoi l'ouvroir à l'origine ?
L'ouvroir était un endroit où on apprenait aux enfants à faire des travaux de couture.
Aux filles, donc.
Aux filles, oui. Et à faire des travaux de couture et de tenue de la maison. Elles étaient ensuite éventuellement placées comme ouvrières, rarement, ou comme domestiques dans des familles bourgeoises. Cet ouvroir a été créé très tôt par la ville même. C'était un ouvroir municipal. Il a été créé avant 1825, mais il était quand même dirigé par des sœurs de l'hospice de Dreux, sœurs de la congrégation de Saint-Paul de Chartres, bien évidemment. Il était alimenté par des dons manuels de particuliers, par le produit de loterie de charité. Loterie d'ailleurs qui était, dont le lot principal était souvent envoyé par le roi ou par l'empereur vers les années 52, 1852. C'est Napoléon Ier. Napoléon III, excusez-moi, qui envoie hein, par exemple un gobelet de vermeil avec sa cuillère, ou bien une autre année, ça sera une horloge. C'était le lot principal. Mais cet ouvroir municipal partageait une maison de la rue des Embûches avec l'école primaire municipale, tenue également par des religieuses, parce que les écoles primaires municipales étaient de filles étaient à 60% tenues par des religieuses, des écoles congréganistes. Donc cette maison était insuffisante pour accueillir et l'école primaire et l'ouvroir municipal. Aussi, monsieur et madame de Coinon vont acheter une maison de la rue des Embûches, contigu de la maison de l'école, et ils vont l'acheter ainsi qu'un petit bout de terrain le 27 novembre 1852. Ils font donation à la congrégation des Sœurs de Saint-Paul de cette maison, rue des Embûches, ainsi que 7 hectares de terre rurale du côté du boulet Mivoy, du boulet Thierry. Donc la congrégation accepte cette donation et va envoyer 2 sœurs de Saint-Paul pour accueillir les 30 jeunes filles, les 30 premières jeunes filles, enfin, ou fillettes, adolescentes, qui leur sont confiées. Mais la ville de Dreux reconnaît le bienfait de cette construction et de cette donation et de cette organisation, et elle se réserve, il est entendu par un contrat, que 8 enfants choisis par la ville seront accueillis à l'ouvroir, à l'ouvroir, qui est maintenant un ouvroir privé, puisqu'il n'y a plus d'ouvroir municipal. L'ouvroir municipal ferme, bien entendu, disparaît. Et il est complètement remplacé par l'ouvroir privé des Sœurs de Saint-Paul, surveillé par Madame de Coinon, c'est sûr, pendant les années où elle est encore là. Mais il y a 8 enfants de la ville qui sont accueillis par l'ouvroir privé. Bien entendu, la ville paie une pension, la ville va quelquefois aider à des réparations dans la maison en question, etc. Donc de 1852 à 1898, l'ouvroir fonctionne rue des Embûches. Les fillettes peuvent être accueillies très tôt, elles sont quelquefois orphelines, elles sont quelquefois de familles très pauvres, où elles sont dans des milieux dangereux pour les mœurs. Mais cette maison va se trouver à son tour vétuste et insuffisante. Donc, Madame de
Coinon. Nouvel achat de Madame de Coinon.
Non, Madame de Coinon est déjà décédée.
Ah bon, donc c'est fini, là.
Et puis de toute façon, l'ouvroir appartient à la congrégation.
Ah oui, d'accord. Nous sommes avec les Sœurs de Saint-Paul.
Voilà. Alors, donc, en 1898, le curé Félix Leroy, doyen de l'église Saint-Pierre, va représenter les sœurs pour l'achat d'une maison dans la rue Saint-Thibault. Au 23, maintenant, après, ça a été, je crois, le 26, rue Saint-Thibault. Donc, en 1898, l'ouvroir est déménagé et transféré rue Saint-Thibault.
Dont on connaît les locaux.
On connaît très bien les locaux, on connaît très bien les constructions annexes qui ont été ajoutées. Et donc, les jeunes filles sont... Alors, c'est toujours pareil. Il y a de moins en moins d'orphelines. Il y a de plus en plus d'enfants dans des familles en difficulté. Des jeunes filles peuvent simplement aller passer une journée par semaine à l'ouvroir le jeudi à ce moment-là.
Si la maman travaille
ou si la maman est malade, etc. Donc, le rôle de cet ouvroir a été quand même très secourable pour les populations de Drouaise.
Alors donc, l'ouvroir est rattaché aussi à Madame de Coignon. Et alors, quelle relation a-t-elle avec le couvent de la Visitation, puisque en fait, elle est... Alors, c'est aussi... Qu'est-ce qui se passe pour Madame de Coignon?
Alors, Madame de Coignon est donc née en 1797.
Oui.
Elle a donc à peu près plus de 60 ans quand elle décide d'entrer elle-même religieuse quelque part. Et elle est très attachée à l'œuvre de la congrégation de la Visitation. Donc, elle va, toujours pareil, avec l'accord de l'évêque, elle décide de créer à Dreux un couvent de la Visitation. Elle fera donc venir, avec l'accord et de l'évêque et de la des visitandines, 6 religieuses qui vont arriver en mars 1860. Les religieuses viennent d'une grosse d'un gros couvent. On a dit Avignon, peut-être Moulins seulement. Elles viennent de Moulins. Ces 6 religieuses arrivent et elle-même va se retirer du monde
à la visitation.
Quels étaient les lieux qu'elle acquiert pour cela? Elle achète la maison et les jardins du Vieux-Pré. Cette propriété appartenait à Monsieur Lemaître. Est-ce le Monsieur et Madame Lemaître? Madame Lemaître, historienne de Dreux.
Oui.
Philippe Lemaître. Cette maison et ses jardins occupent plus de 2 hectares.
Oui, puis des hectares dans la vallée de la Blaise, donc dans une zone inondable.
Il y avait donc un jardin, il y avait deux potagers, il y avait un fruitier et il y avait un grand
potager,
pré.
Oui, voilà, des
et
prés aussi, oui.
Donc, moi je ne sais pas, je n'ai jamais cherché à voir comment avait été construit ce couvent. Il était quand même très important, il occupait une très grande place, le long de la rue des Marchebeaux. Et il y avait une chapelle qui était admirée par tous les Drouais, car elle était resplendissante de mosaïques, je crois. Et on y montait, m'avez-vous dit, par plusieurs marches.
Oui, je me souviens d'avoir été enfant dans cette chapelle et on montait des marches. Ce qui m'avait... Après, j'ai fait la relation, la zone est inondable, et elles avaient eu le bon sens de construire en surélévation, donc... Et la dite église n'était pas inondée.
Et est-ce que les grands bâtiments, qui sont très importants d'après une photo que j'ai, étaient eux-mêmes un petit peu surélevés par rapport au sol? Parce que zone inondable...
Moi, je me souviens qu'on montait des marches pour aller dans ces bâtiments, en tout cas du temps des rédemptoristes, parce que ce sont les rédemptoristes qui ont succédé aux visitandines.
Oui, parce qu'à la guerre, en 1940, les religieuses vont quitter Dreux. Et après le fameux bombardement du 9 et 10 juin, les bombardements du 9 et 10 juin 1940, elles vont en Vendée dans un couvent de leur ordre. Et les catholiques et le clergé sans cesse espèrent leur retour à la libération. Mais leur nombre est en baisse, leur âge est avancé et elles ne reviendront jamais à Dreux. Même si on l'espère encore, peut-être vers les années 1950, elles ne reviendront. Et donc, ces lieux, pendant la guerre, ont abrité des écoles, l'école Saint-Pierre, ont été le lieu d'examen, de baccalauréat, de CAP, de brevet, etc. Et ça a été occupé effectivement par les oratoriens. Et ensuite, ça a été un foyer Sonacotra pour des travailleurs immigrés, de la radiotechnique, je crois. Et ces lieux ont disparu dans un incendie vers 1972, peut-être.
Oui, vraisemblablement, dans cette version-là.
Voilà. Donc, des quatre fondations de Madame de Coignon, il n'en reste qu'une. c'est l'Institut Saint-Pierre. L'Institut Saint-Pierre qui a été fermé.
Voilà.
D'abord, il a été fermé, puisque c'était les lois Combes, etc. Donc, il a été fermé. Les frères des écoles chrétiennes sont partis en Belgique. Et les bâtiments de la rue Saint-Martin ont été, tous les bâtiments, y compris ce que nous appelons le musée de Salles maintenant, la chapelle.
C'était la chapelle.
Chapelle qui n'avait été construite qu'en 1895, qui n'a fonctionné que pendant 10 ans à peu près. Donc ces bâtiments ont été rachetés, peut-être pour un prix assez intéressant, mais ils ont quand même été payés par la ville de Dreux pour créer l'école primaire de, maternelle et primaire de municipale de Dreux.
De filles.
École primaire qui était place Mézirard et qui a laissé la place à un collège secondaire en 1910. Il y a eu un jeu de taquin, j'appelle ça le jeu de taquin. On déplace, on déplace des gens, on envoie d'autres institutions ailleurs, et enfin chacun se succède. Et donc, l'école des Instituts Saint-Pierre-Saint-Paul a été fermée pendant 30 ans à peu près. Et c'est monsieur Hurel qui, en 1934, va permettre, la 1934, oui, à permettre au pensionnat Saint-Pierre de rouvrir. Il va obtenir avec difficulté de madame Victor Dubois la vente de sa maison. Sa résidence, qui est maintenant le lieu de l'administration de Saint-Pierre, et il va petit à petit partir, lui et ses camarades assez bien placés, assez aisés, aider à la construction de ce que nous appelons maintenant Institut Saint-Pierre-Saint-Paul et École Notre-Dame.
Donc en fait, madame de Coignon a beaucoup œuvré, disons au XIXe siècle, pour l'instauration d'écoles, de pensionnats, en tout cas dans de la formation. Elle a compensé, si j'ose dire, son absence de maternité par la création de multiples établissements scolaires à Dreux.
Et ça a quand même, ces œuvres ont quand même perduré, disons, la moitié du XXe siècle quand même. L'ouvroir n'a fermé qu'en 72, les sœurs infirmières ne sont parties que récemment, la visitation n'a fermé qu'en 40.
Oui, donc quelqu'un qui a vraiment marqué de son saut toute la ville de Dreux et ce centre-ville, d'autant plus que vous l'évoquiez tout à l'heure, qu'après la construction du boulevard Louis-Terrier et la vente par les frères des écoles chrétiennes de terrain qui appartenait à madame de Coignon, c'est aussi l'origine, quelque part, de la fondation Baudot, qui était l'hôpital de Dreux.
L'hôpital, ça a permis le déplacement de l'hôpital, de l'hôtel Dieu, hôpital de la Grande Rue, en 1913, vers la rue Saint, enfin, entre le boulevard Louis-Terrier
et la rue Saint-Denis. Et rappelons que ça a été même inauguré par le président de la République à l'époque.
Tout à fait.
Eh bien, le temps imparti pour cette émission s'achève. Peut-être quelque chose, une conclusion pour madame de Coignon ?
Moi, je suis vraiment été passionnée par cette femme et j'ai accumulé pas mal de renseignements et ça devient...
Dont vous nous faites part aujourd'hui. Merci Marie-Thérèse d'être venue nous parler de madame de Coignon qui a autant marqué le paysage drouais. Aux auditeurs, je dis, eh bien, bonne écoute sur Radio Grand Ciel et bonne semaine à tous. Au revoir.